Bonjour à tous. Donc effectivement, David Rosset, heureux pasteur de cette communauté, et puis heureux aussi de pouvoir continuer notre réflexion, approfondissement, et j'aime bien plutôt dire méditation de la parole, avec cette épître aux Hébreux. Alors j'ai déjà reçu 2-3 commentaires comme quoi ce que je vous faisais méditer, ce n'était pas évident. Alors oui, j'en suis conscient, et oui aussi je trouve que c'est bien de pouvoir le reprendre tous ensemble, ce qu'on a pu méditer durant la semaine, et puis essayer de tirer la substantifique moelle, comme dirait un de mes profs de français, pour essayer de voir ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Et puis moi je m'évertue à essayer d'apprendre le français à mes enfants, puis je vois qu'on peut faire des jeux de mots assez intéressants. Hein. L'encre de la foi, allez leur expliquer pourquoi c'est deux orthographes différentes. J'ai toujours pas réussi, mais c'est... comme ça. J'essaye au mieux. L'encre de la foi, c'est notre thématique avec ce slogan, d'une certaine façon, ce tatouage-là du pasteur jeunesse, Francesco, mon collègue, qui imprime finalement cette encre sur son bras. C'est aussi un peu l'idée de se dire comment notre foi chrétienne, nous, est imprimée en nous. Parce que l'Épître aux Hébreux, c'est vraiment ce qu'elle cherche à faire, à imprimer la réalité de la foi dans les cœurs des croyants du premier siècle, comme dans nos cœurs à nous. Et le chapitre 2, que je vous ai invité à méditer en préparant cette prédication pour ce dimanche, voilà par quoi il commence. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas nous perdre. C'est le premier verset de ce chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Puis je crois que c'est un peu la visée de cette série de prédications. Il y a beaucoup de choses qui bougent autour de nous. Pour nous, en tant que croyants, c'est important de s'attacher fermement à des choses que peut-être vous connaissez déjà. Peut-être que c'est la première fois que vous allez découvrir. Je ne sais pas où vous en êtes, chacune et chacun, dans votre parcours de foi, dans votre vie chrétienne. Quel que soit ce parcours, la réalité est la même, c'est ce besoin et même ce devoir de nous attacher fermement à ce que nous avons entendu. Voilà, ça donne la visée, on est vraiment là-dedans. L'encre de la foi, j'ai résumé avec deux lignes distinctes, c'est que Jésus-Christ, et c'est ce que nous avons vu la semaine passée, il est fils de Dieu, ce n'est pas seulement un sage ou un prophète qui serait venu au premier siècle et puis qui était particulièrement inspirant, mais il fait partie vraiment de la Trinité. Et puis, ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on a la possibilité d'être en relation directe avec lui. Et puis là, il y a quand même quelque chose qui nous dépasse. Chapitre 1, verset 3, il est dit « Toute la gloire de Dieu brille sur Jésus. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole soutient le monde. Et son œuvre, il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très haut, très puissant, pardon. Comment, et c'est la question centrale pour nous aujourd'hui, comment est-ce que nous, on affirme qu'on peut rentrer dans cette relation avec Jésus, comment finalement est-ce que ça se passe? Comment ça se fait que nous, êtres humains, des milliards d'êtres humains, peuvent entrer en relation avec le Dieu créateur? Grande question, hein? Comment ça se fait? Et on trouve des éléments de réponse, et particulièrement dans le verset 11, toujours de ce chapitre 2. Or Jésus est celui qui rétablit la relation à Dieu pour tous les êtres humains. Et ceux qui ont été rétablis dans leur relation à Dieu, la conséquence, c'est qu'ils ont tous et toutes le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler et de nous appeler ses frères et ses sœurs. Ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Hein? C'est assez clair et surtout, je trouve que c'est assez puissant. Est-ce que vous vous rendez compte, chers frères et sœurs, que nous entrons dans une fraternité, dans une relation familiale, la plus intime que nous puissions vivre finalement, avec Jésus qui est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de cela? que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, c'est notre frère. Je suis son frère, je suis sa sœur. Est-ce que finalement, j'assume ou j'arrive à m'imaginer cette fraternité avec Jésus? Et là, je crois que la première réponse, c'est non. J'y arrive pas. Ça me dépasse complètement. Si on s'imagine deux secondes, j'étais encore en train de déjeuner, quand tout à coup, je peux lever les yeux en sortant des brumes matinales. J'ai levé les yeux, j'ai vu un magnifique ciel bleu, les arbres, les oiseaux qui chantaient. Puis je me suis émerveillé devant cette création, parce que ça m'émerveille toujours, ces moments de communion avec la nature, avec ce qui m'entoure. Et puis j'ai repensé, évidemment, à ce que j'allais vous apporter ce matin. Puis je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'assez fascinant, que ce Dieu qui a tout créé, qui m'a créé aussi dans mon corps parfait, j'arrive à rentrer dans une relation si étroite avec lui. Souvent, on peut le mettre très loin, parce qu'effectivement, c'est assez loin de se dire quelle est la science de ce Dieu qui est extraordinaire, qui a tout créé. Et puis souvent, c'est un peu l'image qu'on a d'un Dieu qui est très, très éloigné. Si vous allez dans la rue, ce sera au mieux ça qu'on va vous répondre. Puis nous, on prétend, en tant que croyants, et c'est une des ancres de notre foi, qu'on est extrêmement proche de ce Dieu-là, qu'on est carrément considéré comme étant des frères et des sœurs de ce Dieu-là. Il y a un rapprochement qui est complètement, pour moi, fascinant. Et comment nous y entrons? Et c'est là que finalement, on ne peut que répondre non. Est-ce que nous assumons cette fraternité? On ne peut que y répondre non, tout simplement parce que ça ne vient pas de nous, cette volonté d'entrer en relation avec Dieu. Cette volonté, elle est uniquement de Dieu qui décide d'envoyer son Fils dans le monde pour nous rejoindre. C'est lui qui fait notre premier pas. C'est lui qui décide d'aller à notre rencontre pour venir nous sauver, c'est-à-dire nous tirer de là où nous sommes et puis de nous élever jusque vers sa gloire. Alors, est-ce que j'assume cette fraternité? C'est impossible pour moi de l'assumer. Impossible, pourquoi? Car tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu et à Jésus qui a assumé cette mission jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode dans un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémané. C'est quelques heures avant que Jésus soit mis à mort, soit crucifié sur la croix. Puis qu'est-ce qu'il dit à Dieu à ce moment-là? Il dit, « Mon Père, je n'ai vraiment pas envie d'y aller là, dans ce que tu me proposes de vivre. C'est trop pour moi. Éloigne de moi cette coupe. » Il emploie cette expression pour dire, « Là, je n'ai pas envie d'y aller, c'est trop. » Et pourtant, il va passer finalement au-delà de ce qu'il peut ressentir pour continuer d'accomplir la volonté de Dieu. Il ne s'est pas arrêté à ses sentiments, d'une certaine façon. Il s'est arrêté à la mission qui lui avait été confiée. Et il a passé au-delà de ce qu'il pouvait penser, au-delà même de ce qu'il pouvait ressentir, pour aller au bout de sa mission. Donc, qu'est-ce qu'on assume? On n'assume pas grand-chose dans l'histoire. On n'assume pas grand-chose parce que Dieu a fait tout pour nous. Et puis si on essaie d'aller encore un tout petit peu plus loin, mais je ne vais pas m'arrêter sur ça ce matin, si on essaie d'imaginer la dimension horizontale de la fraternité avec Jésus, est-ce que j'assume tous les jours de me dire qu'en tant que David Rosset, finalement j'essaie de me comporter comme frère de Jésus? Ça fout la pression, hein? Imaginez de vous dire, chaque fois, vous avez une petite caméra qui vous drone par-dessus et puis qui vous dit, là, petit David, est-ce que tu t'es comporté en frère de Jésus ou pas? Ce serait un peu compliqué. Hein? Est-ce qu'on assume? Là, on a plutôt envie de dire, finalement, elle est très bien, cette famille, c'est la sainte famille, je la laisse à distance, mais moi, je n'en fais pas tellement partie. De nouveau, là, très difficile de dire, est-ce que j'assume cette fraternité ou pas? Parce que c'est beaucoup plus simple de se dire, je me tire des flûtes et puis je ne dis surtout pas que je suis chrétien, j'aurai beaucoup moins de pression sur la manière dont j'ai de me comporter. J'entends souvent la remarque qu'on dit, mais c'est bizarre parce que nous, les chrétiens, on nous en demande toujours deux ou trois fois plus en termes de comportement, où on a deux ou trois fois plus regardé une fois qu'on a fait notre coming out spirituel. C'est vrai, c'est comme ça. Je n'ai pas envie de vous dire autre chose. Hein. C'est la réalité. Pourquoi? Parce que finalement, on doit assumer cette fraternité avec Jésus, cette proximité avec le Fils de Dieu. Alors, est-ce que je suis à la hauteur? De toute évidence, non. Et pourtant, vous verrez que tout ce que nous allons méditer dans ces prochains versets, c'est le chapitre 2, les versets 10 à 18. Tout ce que nous allons méditer nous pousse à répondre plutôt oui à cette question. Et ce oui, ce sera la réponse de la foi. Alors on y va, on médite ce texte d'Hébreux 2. Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Amener beaucoup de ses enfants à participer à sa gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il conduise Jésus à sa perfection, au travers de la souffrance, car Jésus est celui qui est à l'origine de leur salut et qui les y conduit. Quelle est la volonté de Dieu pour l'homme ? C'est qu'il veut amener beaucoup de ses enfants à participer à sa gloire, à nous amener finalement dans cette proximité avec lui. Pas rester hyper distant, mais venir vers nous, à nos côtés, le Dieu Tout-Puissant. Or, cette relation, elle est rétablie avec Dieu par Jésus, pour tous les êtres humains. Et ceux qui ont été rétablis dans leur relation à Dieu ont tous le même Père, par lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Jésus, il nous accepte tel que nous sommes. Il nous prend avec et il nous appelle, lui, en premier lieu, ses frères et ses sœurs. De nouveau, message où Dieu va vers nous et nous amène vers lui. Il déclare en effet, « Mon Dieu, c'est Jésus qui parle, je parlerai de toi à mes frères et à mes sœurs. Je manifesterai la gloire devant toute l'assemblée. » Et il dit aussi, « Je mettrai ma confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici, Père, avec les enfants que Dieu ou que tu m'as donné. » Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leurs conditions humaines. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Il a délivré ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est à nous, aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères et à ses sœurs, afin d'être pour eux leur grand prêtre, plein de bienveillance et fidèle au service de Dieu pour assurer le pardon des péchés au peuple. Et maintenant, il peut secourir les personnes qui sont mises à l'épreuve parce qu'il a passé lui-même par l'épreuve et par la souffrance. Amen. C'est du costaud et je crois qu'on peut s'ancrer sur ces paroles-là. Elles sont vraiment là pour stabiliser notre foi, pour nous donner ce socle nécessaire pour ensuite vivre pleinement, j'ai envie de dire, notre vie de chrétien. Et je crois qu'avant tout, si je peux dire oui à cette fraternité que j'assume, c'est fondamentalement parce que Dieu m'aime et Dieu me fait confiance. Et ce n'est pas un slogan un peu léger, dire « Dieu vous fait confiance, pensez positive, allez-y, vous êtes les plus forts, puis on gonfle les muscles. » Ce n'est pas du tout ça, hein, l'esprit de ce texte. L'esprit de ce texte, il est ailleurs. Mais par contre, je peux m'appuyer et répondre oui, alors que j'ai toutes les raisons de répondre non à cette question. Je peux répondre oui parce que j'ai la certitude que Dieu m'aime et que Dieu me fait confiance. Puis ça donne une sacrée confiance, hein. Ça met en avant. Ça donne du punch et ça nous élève. Il y a vraiment une insistance pour moi ce matin capitale sur cette dimension verticale de la fraternité avec Jésus. On peut beaucoup plus s'exprimer sur cette dimension horizontale, sur comment on se comporte finalement entre frères et sœurs, sur comment on se comporte avec tous ceux qui nous entourent, c'est se aimez-vous les uns les autres. Mais là, je vais insister ce matin sur cette dimension verticale. Comment est-ce que j'assume au mieux cette relation avec le Fils de Dieu? Comment est-ce que moi, je me mets, d'une certaine façon, avec ma réponse de la foi, au sein de cette famille et je profite, je jouis de la présence de Dieu? C'est vraiment le point clé ce matin. La fraternité avec Jésus, pour chacune et chacun, c'est avant tout être dans cette famille de Dieu. être dans cette famille avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça être croyant. Puis c'est là qu'on est un peu, beaucoup décalé avec les contemporains qui nous entourent. Et si je dis que je suis croyant, c'est bien parce que je crois que je fais partie de cette famille-là, finalement presque avant de faire partie de ma famille de sang. Je fais partie de cette famille spirituelle avant toute autre chose. C'est des choses qu'on sait, c'est des choses dont on est conscient. Mais quand on prend le temps vraiment de les approfondir, c'est ce qui s'est passé avec moi quand j'ai pu préparer cette prédication, ça prend quand même carrément une autre dimension. Ça prend une dimension d'une profondeur que j'aimerais puis que j'essaye ce matin de vous partager avec mes faibles mots d'une certaine façon. Cette dimension verticale de la relation qui fait que moi, David, comme vous tous ici, vous faites partie de cette famille de Dieu qui règne dans les cieux. Nous pouvons ainsi participer à la gloire de Dieu. Jésus qui nous dit « Je proclamerai ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. » C'est Jésus lui-même, du coup, qui vient vers nous, qui anime notre louange. Et puis, celles et ceux qui étaient là ce matin sur scène sont finalement que les serviteurs de Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui vient au cœur de notre louange et de notre assemblée pour l'animer, c'est-à-dire lui donner la vie. On peut être les meilleurs musiciens de la terre, on aura toujours besoin, si on veut louer Dieu, d'avoir cette venue de Jésus au milieu de l'assemblée pour lui dire « Ouais, c'est toi qui vas donner cette animation-là. » Moi, je peux essayer de jouer du piano, de la guitare, de la batterie, essayer de chanter le mieux possible. Je ne vais jamais réussir à faire ce saut d'animation de ce que Dieu veut vraiment au cœur de l'assemblée. C'est Jésus qui vient lui-même et qui anime nos cœurs, nos esprits, pour que nous puissions finalement nous élever et rentrer pleinement dans cette famille-là. Et puis aussi un lien évident avec le baptême. Dimanche prochain, on aura la joie d'accompagner 3 personnes qui vont passer par les eaux du baptême. Il y a vraiment aussi un lien évident dans le sens que ces 3 personnes-là ont décidé finalement de dire « Oui, j'assume cette fraternité avec Jésus. Oui, j'ai envie d'entrer dans cette famille-là de mon plein gré, moi, Enoa, Naeva et Sylvie. Je décide de faire ce pas-là puis de répondre ce oui de la foi. » Ben, ces 3 personnes, elles vont vraiment pouvoir dire « Là, je rentre dans cette assemblée que Jésus lui-même anime. » Que Jésus lui-même donne sa vie à cette assemblée. Et puis pouvoir faire sienne ces paroles de Jésus, c'est extraordinaire, qui dit « Me voici, Seigneur, avec les enfants que tu m'as donnés. » Extraordinaire ce dialogue entre Dieu et Jésus. Où il nous prend l'un après l'autre, puis il nous dit « Père, me voici, et tout cela tu me les as donnés. » Vous vous rendez compte qu'on est considérés comme étant des cadeaux de Dieu. Puis je ne dis pas ça pour vous flatter, de nouveau, c'est exactement ce que la parole dit, c'est du verbatim, comme on dit. C'est mot pour mot ce qu'il en est. Donc quand on a ces messages, je dirais, positifs, ces messages pleins d'espoir envers ceux qui nous entourent, ce n'est pas pour faire plaisir, c'est simplement qu'on essaye de répéter ce que Dieu nous dit, ce que Dieu lui-même dit à son Père, ce que Jésus lui-même dit à son Père. Assumer cette fraternité, c'est vraiment assumer le fait que nous sommes dans cette relation verticale, cette relation croyante avec Dieu. C'est être confiant dans cette relation-là qui ne va pas bouger en fonction de ce que je peux ressentir ou ne pas ressentir. Pourquoi elle ne veut pas bouger? Parce que ce que Jésus a fait, selon la volonté de son Père, c'est établi et c'est établi à jamais. C'est établi parce qu'il en a décidé ainsi. Et nous, une fois que nous avons donné cette réponse de la foi, ce n'est pas une réponse qui va varier toutes les 2 semaines et demie. Ce n'est pas une réponse qui va varier en fonction de comment je me sens aujourd'hui ou bien dans 2 semaines. C'est d'une certaine manière scellé, et c'est une scellé pour l'éternité. Quand Dieu dit « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés », il ne va pas tout à coup dire 2 semaines plus tard que tous les enfants ont changé et que c'est tout des nouveaux. Non, pas du tout. Il y a quelque chose de définitif qui est là aussi ancré, A-N-C-R-E. Se trouver comme ça en présence de Dieu, ça peut quand même être assez troublant. Moi, ça me trouble un peu. Mais c'est notre réalité de croyant. Et ensuite, on peut penser effectivement à cet élément horizontal, d'assumer cette fraternité finalement qui est d'assumer de refléter Jésus, de refléter Dieu dans le monde, dans notre vie de tous les jours. Alors je vous invite maintenant à prendre peut-être 2 minutes dans vos têtes pour essayer de faire un petit bilan de la semaine écoulée et puis d'essayer de discerner les moments où nous nous sommes fait confiance parce que nous savons que Dieu lui-même nous fait confiance. Essayez de discerner les moments où vous avez pu participer à cette notion de la famille de Dieu au niveau vertical, à cette notion où vous avez pu vous sentir entouré par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de vous dire là, je suis au cœur de où je dois être finalement. Je suis à ma place comme fille et fils de Dieu. Quand est-ce que vous avez pu expérimenter, cette relation fraternelle dans sa verticalité avec son Fils par l'Esprit Saint? C'est des moments dont on a besoin en tant que croyant. Si nous sommes croyants, c'est parce que nous sommes dans cette relation-là. On ne peut pas se dire qu'on passe notre vie de croyant sans avoir besoin de voir sa famille, finalement. Sa famille, on a envie de la revoir et on a besoin d'avoir des contacts réguliers avec elle, simplement pour grandir et pour vivre. C'est exactement la même chose pour nous en tant que croyants. Et puis après, ça peut donner des conséquences assez concrètes, dans les petites comme dans les grandes choses. Ça peut être confiant avant d'aller pour la première fois dans une classe d'école, c'est ce que j'ai entendu une fois cette semaine. Ça peut être confiant en se disant que même si j'ai appris une mauvaise nouvelle pour X raisons, de se dire que ça va aller quand même, pas parce que je suis un super-héros, mais simplement parce que je sais que Dieu est avec moi et que je peux être dans cette famille-là. Et on peut multiplier les exemples, les conséquences très concrètes, très pratiques que cette relation à Dieu nous donne l'occasion de vivre. Être confiant dans qui nous sommes, c'est-à-dire être enfant de Dieu. Alors je nous laisse avec ces questions. Est-ce qu'on se donne, frères et sœurs, ces moments de vivre cette fraternité? On se donne des moments pour regarder l'Eurofoot, pour faire plein de choses. Est-ce qu'on se donne simplement, chaque matin, ces moments pour se dire « Je me place devant toi, Seigneur, et je veux vivre cette relation filiale avec toi pendant 5, 10, 2, je ne sais pas. » Mais simplement de prendre conscience. Oui, ce matin, David, je vais me lever, je vais entamer ma journée, et la première chose que je fais, je me mets dans cette relation de fils avec toi. Je me mets dans cette relation en toute conscience pour vivre ma vie de croyant aujourd'hui. Quand on a chanté « J'ai soif de ta présence », c'est bon vieux cantique, comme tu disais, remixé certes, mais c'est exactement ça qu'il nous a dit. J'ai soif de cette présence, d'être dans la famille de Dieu. Alors, on en revient peut-être après des longs détours de cette prédication, par exemple, qui approfondissent notre compréhension de Dieu, à ces éléments simples et concrets de la vie croyante. J'ai soif de ta présence. Que ça puisse être simplement notre prière avant de commencer notre journée, dire « Seigneur, me voici en tant que fils, j'ai soif de ta présence. » Amen.